Et voilà, bienvenue à ce podcast autour des oiseaux. Je vous accueille avec un petit son de la Mésange Bleue. Mésange Bleue qu'on a pu rencontrer déjà au préalable ce matin lors d'une petite balade. Petite balade que va nous expliquer un des invités de ce matin. Qui veut ? Eh bien Thibaut, je t'en prie, vas-y.
Bonjour, je suis Thibaut. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de la balade que nous avons fait avant de commencer. Nous avons vu pas mal d'oiseaux. On a vu par exemple des rouges-gorges familiers, des rouges-queues noires. Nous avons vu également des pigeons ramiers, mais aussi des pinsons des arbres, des mésanges charbonnières et bleues.
Mais dis-moi, comment tu as fait pour voir tout ça, mon petit Thibaut? T'étais accompagné? T'étais tout seul? Comment ça s'est passé tout ça?
Nous étions accompagnés de participantes de la LPO qui peut se présenter.
Merci. Donc Mathie Bigouin, je suis animatrice à la Ligue pour la protection des oiseaux et justement j'intervenais auprès de vous pour vous présenter quelques oiseaux qu'on peut trouver à côté de chez nous. Et j'étais aussi accompagnée de...
Pauline. Alors moi c'est Pauline, du coup je suis en service civique à la Ligue de protection des oiseaux avec Mathilde et du coup je l'ai accompagnée ce matin dans le cadre de cette animation.
Et je tiens à préciser que même s'il pleuvait et que le beau temps n'était pas au rendez-vous, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à voir. On a pu voir tout un ensemble d'oiseaux qui étaient présents dans les haies tout autour du centre, donc ça fait plaisir à voir. Voilà.
Alors du coup, toutes ces rencontres avec les oiseaux du quartier, qu'est-ce que ça vous évoque, les jeunes qui sont autour de la table? On peut peut-être d'ailleurs, vite fait, parce que vous êtes au nombre de trois, on peut se représenter rapidement les petits prénoms.
Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 11 ans et je viens régulièrement au Club Odo.
Moi du coup, je me suis déjà présenté, je suis Thibaut, j'ai 13 ans et je suis en quatrième et je viens régulièrement au Club Odo aussi.
Moi, je m'appelle Lilouane et j'ai 11 ans et je viens aussi régulièrement au Club Odo.
Super, et vous avez déjà une préférence par rapport aux oiseaux que vous avez rencontrés ce matin dans la liste que Thibaut nous a donnée?
Personnellement, pas particulièrement. Il y en a effectivement que je trouve plus beaux que d'autres.
Alors lequel justement, par exemple?
Par exemple, j'aime bien les rouges-gorges, je les trouve assez beaux.
Et j'aime bien le pinson des arbres.
Moi, j'aime bien la mésange bleue, car j'aime bien sa couleur, mais aussi j'aime bien qu'elle est tout le temps agitée à aller dans tous les sens sur les arbres.
C'est le même caractère que toi, c'est ça?
Pas vraiment.
Elle ne se laisse pas faire, les mésanges. Suffit de les voir à la mangeoire.
Alors, est-ce que c'était simple de les regarder, ces oiseaux?
Eh bien, pas tout le temps. Parce que ils se laissent pas voir, quoi. Ils se cachent des fois.
Et surtout, comme il pleuvait, justement, ils se cachaient dans les arbres, donc c'était pas si simple que ça de les voir.
Faut être très attentif.
Vous aviez une paire de jumelles qui vous a été prêtée par Mathilde de la LPO. Et... c'était facile de s'en servir? Vous avez appris quelque chose autour de ces jumelles?
J'ai appris que les chiffres qu'il y avait entre les deux lunettes, c'est le grossissement, enfin la taille des lunettes.
Le zoom.
La netteté.
Tu as deux chiffres, donc tu as le premier que tu observes, généralement tu peux observer soit du 8-23, soit du 10-42, soit comme ce que tu avais, rappelle-moi ton prénom s'il te plaît.
Éloine,
voilà, tu avais du 12-42, donc le premier chiffre c'est le zoom et le deuxième chiffre c'est la taille de la lentille. En clair, plus le chiffre est gros, plus ça zoome et plus le deuxième chiffre est gros, plus la lentille va être grosse et donc capter plus de rayons du soleil, mais avec des rayons de lumière, ce qui permettra de capter plus de couleurs. Mais par contre, plus la lentille est grosse, plus la paire de jumelles est grosse et donc difficile à porter sur une longue durée. Voilà.
Et voilà donc un bon conseil pour votre prochain achat de paire de jumelles. Alors, ce que je vous propose, c'est que maintenant qu'on a fait une petite présentation de ce qui s'est passé avant cette prise d'antenne, eh bien, normalement, comment dire, les jeunes, vous avez préparé quelques questions par rapport à notre projet. Alors, peut-être qu'on pourrait redire un peu quel est notre projet autour du Club Ado. Est-ce que Lilouane, tu veux l'expliquer ?
Le but, c'était de rencontrer une personne de la LPO, puis de poser des questions ou de faire des jeux ou d'observer.
Mmh. Mais après, à partir du Club Ado, on souhaitait faire peut-être un observatoire.
Avec des cabanes.
Avec des cabanes, effectivement. Dans les... Et puis peut-être aussi une petite table d'orientation pour expliquer... aux visiteurs, aux gens qui se promènent, voilà, qu'est-ce qu'on a fait, avec quel objectif, c'est-à-dire pour quel oiseau, par exemple, est destinée telle cabane. Alors du coup, vous avez des questions peut-être à poser aux spécialistes qui sont avec nous ce matin, justement, dans le cadre de ce projet-là.
Alors moi, j'avais une question, mais c'était plus par rapport à la LPO. Mm-hmm. C'était quels étaient les différents domaines d'action de la LPO ?
Eh bien, c'est une super bonne question parce que c'est une asso qui est connue. Alors tout d'abord, la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, c'est une association qui est présente sur le territoire national, qui est assez connue. Mais effectivement, le grand public ne sait pas ou ne connaît pas l'intégralité des actions que nous menons. Donc nous, on essaye de communiquer, mais effectivement... on ne peut pas connaître toutes les actions de la LPO. Alors pour présenter, la LPO c'est un réseau national donc, qui peut s'étendre aussi bien de la Bretagne qu'au Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous, au niveau de la LPO 44, on est une association qui intervient dans tout le département de la Loire-Atlantique. Dans chaque département, il y a une LPO ou alors tout au niveau de la région, tout un groupement LPO. Bref. Au niveau de la LPO 44, il y a plusieurs domaines d'action. Il y a toute la partie études et conservation, c'est-à-dire que j'ai des collègues qui vont sur le terrain et dont le métier, c'est de compter les oiseaux. Alors, ça paraît un peu étrange comme ça, ou de compter d'autres espèces. Ça paraît un peu étrange de compter les espèces, mais c'est très important parce que quand on compte une espèce, on rentre une donnée. Et cette donnée, on peut se dire, tiens, cet oiseau, à cette période-là de l'année, il est présent. Est-ce qu'il va rester longtemps sur ce site-là ? Est-ce que c'est une espèce qui est courante ou alors une espèce qui est un peu plus rare ? Cette espèce, si elle est présente, ça veut dire quelque chose. Est-ce que le lieu, il est intéressant pour que cette espèce y vive ? Ou au contraire, est-ce que c'est une espèce qui vient d'un autre lieu, qui s'est perdue ? Bref, on va rentrer tout un ensemble de données. On va faire ce qu'on appelle des inventaires. On va lister ces espèces et derrière, il va pouvoir en découler tout un ensemble d'actions. C'est-à-dire que la commune ou... une structure sur laquelle on intervient va dire voilà, j'ai un espace vert, je vais décider quelle mesure de gestion je vais mener. Par exemple, je fais un cliché, mais si on trouve une espèce très très rare à cet endroit-là et que derrière la commune dit je veux construire un parking dessus, ça va être un peu compliqué parce que forcément on va se dire non, c'est le lieu où vit cette espèce-là qui est très rare, donc au contraire il faudra plutôt les préserver. Je vous fais un petit cliché, hein, mais c'est plus généralement dire là est-ce qu'on va implanter une haie ou là j'ai constaté qu'il y a des espèces invasives, est-ce qu'on va les enlever ? Bref, c'est tout un ensemble de mesures pour gérer les espaces afin d'y accueillir la biodiversité. Également, donc ça c'est ce qu'on appelle les études, il peut y avoir aussi d'autres types d'études, par exemple on a tous entendu parler des éoliennes, voilà. Donc quand un parc éolien est implanté, évidemment il ne faut pas l'implanter n'importe où. Donc il y a des études qui sont menées avant l'implantation des éoliennes sur ce site-là où il va y avoir aussi différents inventaires, donc ça peut être aussi bien sur les chauves-souris, sur les oiseaux que sur... que sur d'autres espèces, mais sur nous, la LPO 44, c'est surtout sur ces espèces-là. On se dit, là, et on va par exemple brider les éoliennes parce qu'il y a ces espèces-là qui sont présentes. On se dit, on va trouver cette espèce-là qui est très très rare, donc l'implantation des éoliennes ici n'est pas forcément justifiée au vu des espèces qu'on va y retrouver. Et on peut mener aussi des études après l'implantation des parcs éoliens pour se dire, là, par exemple, on observe qu'il y a trop de mortalité de chauves-souris, donc les éoliennes, on va décider de les arrêter de telle heure à telle heure, de manière à limiter les impacts sur les espèces. Voilà, donc là, je l'ai fait très rapidement, mais c'est ça, les études de terrain qui permettent de sauvegarder la biodiversité. Oui.
Sinon, pour revenir sur les cabanes oui. à oiseaux, mm-hmm. Est-ce que vous pourriez nous donner un conseil pour où les faire précisément ?
Alors, où les faire, il y a plusieurs manières. Donc, par exemple, alors on ne dit pas cabane, on dit nichoir. Parce que le nichoir, c'est un endroit où l'oiseau, il va nicher. Il va pondre ses œufs, il va faire son nid. Le nichoir, il ne va pas l'occuper toute l'année. La cabane, c'est pas une cabane, c'est pas une maison. C'est un refuge temporaire occupé par l'oiseau. Et quand on parle justement de nichoir, c'est tous les oiseaux qui vont occuper des cavités, qui vont nicher à l'intérieur. Il y a des oiseaux, ils n'ont pas besoin de nichoir. Par exemple, on reprend les photos ici que vous avez sous les yeux. Donc c'est le pinson des arbres ou le chardonneret. Eux, ils n'auront pas besoin de nichoir. Voilà. Donc les autres oiseaux qui vont occuper les cavités, ça va être par exemple la mésange bleue ou la mésange charbonnière qui, elle, va rechercher ces cavités-là qui vont occuper ces types de gîtes. Et donc, ce qu'on constate, c'est que dernièrement, on fait des rénovations autour des maisons, ce qui est très bien, sauf que ces cavités, elles disparaissent. Et c'est ça qui pose souci pour l'accueil de la biodiversité. Les oiseaux ont de plus en plus de mal à trouver ces cavités-là. Donc, nous, l'objectif, ça va être de créer des nichoirs pour offrir des cavités et sauvegarder cette biodiversité. Donc, où les installer, ça dépend en fonction des modes de vie des espèces. C'est-à-dire que je vous ai apporté plusieurs nichoirs et vous allez voir, ces nichoirs, ils sont tous différents les uns des autres. Il y en a, il faudra les installer en hauteur. Par exemple, les nichoirs à martinet, qui est un oiseau qu'on peut observer en été, qui vole très très haut dans le ciel, il faut vraiment l'installer tout en haut des maisons, minimum 5 mètres de haut, si ce n'est plus. Généralement, c'est des nichoirs qu'on peut observer sur les immeubles. Donc ça, c'est des nichoirs qu'on installe très très haut. Pour tout ce qui est nichoirs à passereaux, donc mésanges, rouge-gorge, etc., on va plus les installer entre 1,50 m, 2 mètres de haut, si ce n'est plus. Donc minimum 2 mètres de haut. Ensuite, il faut penser, un oiseau, c'est un territoire autour de son nichoir. Donc il ne faut pas qu'un nichoir d'oiseau d'une même espèce soit installé trop proche du même nichoir pour un oiseau de la même espèce, parce que forcément, il va y avoir un petit conflit. Pour le nichoir d'une mésange charbonnière, par exemple, elle doit avoir un nichoir qui soit éloigné d'un nichoir d'une autre mésange charbonnière de minimum 40 mètres. Voilà, donc elle a un territoire de 20 mètres autour de son nichoir, l'autre mésange a un territoire de 20 mètres autour de son nichoir, donc il faut 40 mètres entre chacun des nichoirs. Là, tout de suite, ça commence à compliquer les choses. C'est pour ça il ne faut pas penser à mettre un maximum de nichoirs dans son jardin. Le mieux reste quand même de planter des haies, de planter des arbres, de planter des buissons, afin d'offrir le maximum de cavités. Néanmoins, si on souhaite mettre des nichoirs, donc on respecte cette règle des 40 mètres, et ensuite on essaye de faire des nichoirs d'espèces différentes, où là peut y avoir un peu plus de tolérance. Ça ne veut pas dire qu'on doit coller les nichoirs les uns contre les autres, mais il faut quand même respecter une certaine distance. Et là, par exemple, on va mettre un nichoir de rouge-gorge, on va varier les nichoirs. Un nichoir de rouge-gorge, un nichoir de mésange, un nichoir de grimpereau. Donc je vous ai apporté quelques types de nichoirs. Et là, si on varie les nichoirs, si on éloigne les nichoirs les uns des autres, c'est bon. Donc c'est-à-dire que on montrait tout à l'heure les pins qui sont alignés les uns à côté des autres. Là, il ne faut pas espérer mettre un nichoir dans chacun des arbres parce que ça ne fonctionnera pas. Par contre, il arrive qu'il y ait des oiseaux qui vivent en colonie où là, ça ne dérange pas d'avoir des nichoirs les uns à côté des autres, comme par exemple le moineau. Le moineau, lui, on peut l'observer parfois en dessous occuper des cavités, en dessous des tuiles. Eh bien, les nids vont être collés les uns à côté des autres et là, ça ne pose pas de souci. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça dépend du mode de vie de l'espèce, forcément, si c'est une espèce qui vit en colonie, si c'est une espèce qui a un territoire, et varier aussi l'installation en fonction de la hauteur. Tout ça, ça se retrouve dans les livres, c'est très facile d'accès. Voilà.
Alors, si on rapproche, par exemple, des nichoirs à moins de 40 mètres destinés à la même espèce, on peut considérer, à un moment donné, qu'ils ne seront peut-être pas tous occupés en même temps.
Exactement.
Mais ça peut laisser aussi plusieurs sites à l'oiseau pour choisir.
Tout à fait, tout à fait. Après, ça, c'est quand on peut tout à fait rapprocher les nichoirs. Ça veut dire qu'il y en aura un qui sera occupé et l'autre non. Bon, après, quand on achète les nichoirs, on n'a pas envie d'en installer 40 et qu'il n'y en ait qu'un qui soit occupé. Mais, par exemple, ça peut permettre d'offrir plusieurs possibilités à l'oiseau s'il se trouve mieux dans un nichoir ou mieux dans l'autre.
Les 40 mètres, c'est en distance horizontale et sur un même tronc, par exemple.
Alors là, forcément, il faut penser à une sphère tout autour du nichoir. Ouais, 40 mètres aussi bien hauteur que... Et puis même 40 mètres de haut, un nichoir à mésange, non. Vaut mieux que ce soit 2 mètres en moyenne, c'est très bien. Il faut penser aussi au chat. Voilà, donc l'installer dans un endroit où qu'il ne soit pas trop accessible au chat, forcément, sinon la nichée va être dérangée.
Et donc j'avais une question sur quelles étaient les relations de la LPO avec les autres organismes de protection au niveau européen et mondial, et si vous menez des actions communes ?
Tout à fait, c'est une très bonne question. Donc la LPO travaille, oui, avec d'autres associations. Donc je te dirais que là, je ne les ai pas toutes en tête. Donc je vais surtout parler de celles au niveau du département de la Loire-Atlantique. Donc nous, on est spécialisés dans les oiseaux, pas que, mais effectivement, on est reconnu pour notre expertise là-dedans et on peut travailler avec d'autres associations en partenariat sur des projets communs pour avoir plus de poids. Notamment, je pense, quand il y a certaines actions qui demandent une action politique ou qui demande justement une mobilisation, ben là on travaille avec d'autres associations comme notamment Bretagne Vivante, France Nature Environnement, afin de publier des communiqués de presse et avoir plus de poids, y être plus entendu. En fait, l'union fait la force. Donc nous, associations naturalistes, on n'a aucun intérêt à se battre les unes contre les autres. Vaut mieux se battre ensemble pour réussir justement nos objectifs qui sont communs, c'est-à-dire la protection de la biodiversité. Voilà. Oui ?
Non, peut-être qu'il faudrait préciser que la LPO, y a la LPO France au niveau national, et qui est une association, et nous on est une autre association, on est la LPO 44, donc Loire-Atlantique. Donc en fait c'est deux associations différentes, donc on ne va pas forcément avoir les mêmes partenaires. La LPO France, elle va avoir des partenariats, des fois des gros partenariats avec des grosses associations, même peut-être des entreprises. Voilà. Nous, ça ne va pas être à la même échelle, on ne va pas forcément avoir tous ces mêmes partenaires parce qu'on est deux associations différentes, même si bien sûr on a les mêmes objectifs et on travaille avec la LPO France aussi. Voilà, c'était juste une précision.
Merci.
Est-ce que Lidouane, tu avais des interrogations ?
Non, pas vraiment.
Pas vraiment ? Moi, j'en avais une suite à la balade de ce matin. J'ai cru entendre quand même que, bon, un nichoir, c'est bien, etc. Mais qui dit nichoir dit petit, et qui dit petit dit nourriture. Et est-ce que c'est intéressant pour nous, par exemple, dans notre projet de mettre des nichoirs, de penser peut-être aussi à ce qu'on peut planter autour en complément voilà, pour aider ces espèces ?
Tout à fait. Comme je disais, avant d'installer les nichoirs, il faut planter. Il faut planter parce que ça va offrir à la fois des refuges, parce que les oiseaux, s'il n'y a pas forcément... Enfin, ils vont toujours trouver des cavités, que l'on leur offre des nichoirs ou non. Par contre, les refuges, les endroits pour se cacher des prédateurs ou pour la nourriture, ça va être un peu plus compliqué. Donc effectivement, si on installe des nichoirs, une petite haie à côté pour se protéger des prédateurs, pour offrir de la nourriture, c'est pas mal. Dans la haie, il va y avoir tout ce qui est insectes, il va y avoir aussi tout ce qui est baies en automne pour pouvoir passer l'hiver. Il va y avoir des herbes folles, comme on a pu voir tout à l'heure. Donc les oiseaux, ils vont se rabattre sur ces herbes folles pour y manger les graines à la mauvaise saison. Donc ils vont y retrouver là-dedans tous les matériaux pour construire leur nid à l'intérieur du nichoir. Donc c'est un tout.
Et quelques conseils peut-être pour les gens qui veulent installer des mangeoires, par exemple, l'hiver ?
Alors, pour installer une mangeoire, il faut l'installer... plusieurs choses. Il faut donner à manger aux oiseaux uniquement quand il fait froid. faut pas donner à manger toute l'année parce que ça peut provoquer des déséquilibres. On a vu par exemple en Royaume-Uni qui eux, certains donnent à manger toute l'année. Il y a certains oiseaux, il y a ils sont des adaptations, enfin une évolution au niveau des becs. On a remarqué que sur certains oiseaux, le bec est un peu plus allongé pour pouvoir accéder à la nourriture beaucoup plus facilement. Donc là, de par une action de l'homme, ça influence la morphologie d'une espèce. Par ailleurs, manger pour que les oiseaux mangent à la mangeoire toute l'année, ça crée des déséquilibres. Il y a certaines espèces qui ne vont pas forcément migrer parce qu'elles ont de la nourriture à cet endroit-là toute l'année. Tout est lié. Donc le mieux, c'est quand il fait froid. Chez nous, on dit quand il gèle, c'est mieux parce que quand il gèle, les oiseaux, ils ont du mal à accéder à la nourriture qui est cachée sous le gel, qui est difficilement accessible. Donc là, notre action, elle est importante. Pour une mangeoire, donc on l'installe en hiver, on la nettoie bien, minimum une fois par semaine, histoire d'éviter, notamment en plus en cette période de grippe aviaire, où là, ça peut être effectivement des endroits qui sont très sensibles. Donc, avant tout, on n'essaye pas de bourrer un maximum la mangeoire. Il vaut mieux mettre un petit peu de nourriture tous les jours, à peu près vers les mêmes heures, que tout mettre d'un coup et attendre que la nourriture moisisse, que ce soit plus vraiment consommable. Donc là, il faut que ce soit, au niveau sanitaire, en tout cas, il faut que ce soit bien.
On met quoi dans cette mangeoire ?
Ah, plein de choses. Alors, nous, à l'LPO, on vend des graines de tournesol. C'est vraiment l'aliment préféré des oiseaux. Il y a plein de choses, hein. Tout type de graines, en fait, ça leur plaît parce qu'ils vont rechercher ça dans les herbes folles. Mais c'est vrai qu'ils ont une nette préférence pour les graines de tournesol. Voilà, donc nous, on travaille avec des agriculteurs qui nous fournissent tous les hivers une quantité de graines bio. Mais sinon, si vous allez en magasin, vous allez trouver des mélanges avec des graines de tournesol, mais aussi d'autres types de graines qui sont un peu plus petites, qui sont un peu plus adaptées pour les petits becs. À la mangeoire, généralement, ça se bat. Donc, il y a une certaine hiérarchie. Il y a certains oiseaux qui ont un plus gros bec qui vont un peu concasser certaines graines et d'autres oiseaux qui ont un plus petit bec qui vont attendre de manger les miettes pour pouvoir se nourrir. Donc... voilà, tout type de graines, mais les graines de tournesol, c'est les préférées. Vous pouvez vous amuser dans votre jardin à mettre différents types de graines et voir lesquelles les oiseaux vont manger en premier. C'est assez rigolo.
Et si j'ai des restes de pain ?
Non ! Les pains, il faut éviter. On en discutait tout à l'heure. Le pain, ça, là aussi, ça crée des déséquilibres chez les oiseaux. Les plumes vont être beaucoup plus fragiles. Ça les rend malades. Ça leur crée des désordres digestifs. Qu'on voit un oiseau picorer du pain dans la rue, bon, bah, ça, voilà, on peut rien y faire, c'est pas nous qui avons donné du pain. Mais par contre, si on doit se dire, bah, j'ai des restes de pain, comme je dis, il vaut mieux faire du pain perdu avec que les donner aux oiseaux. Les oiseaux, on leur donne des graines. Et c'est tout. Oui ?
Est-ce qu'on a le droit de, est-ce qu'on a le droit de donner du pain aux canards, par contre ?
Non plus. Les canards sont des oiseaux et ça va leur poser des désordres digestifs. Eux, ils aiment bien justement brouter les algues qui sont au fond de la mare, au fond de l'étang. Donc le pain aux canards, ça va être exactement pareil que tous les autres petits oiseaux.
Ok. Ouais.
Vous reste-t-il des questions, Hugo, Thibaut, Lilouen?
Moi, j'avais d'autres petites choses à ajouter. C'est si vous voulez construire des nichoirs, qu'est-ce qu'il faut respecter ? Tout d'abord, pas besoin de mettre très cher dans un nichoir. Il faut rester au plus simple. Mais il faut respecter du bois brut. Du bois brut, éviter tout ce qui est contreplaqué, tout ce qui est bois traité. On va plutôt choisir du pain, par exemple. Du pain brut, c'est très bien. Généralement tous les plans que vous pouvez trouver sur internet, ça va être du 18 mm d'épaisseur, donc il faut faire attention parce qu'il y a certains endroits ça peut être du 2 mm d'épaisseur et là tout de suite ça modifie le plan. Il faut que vous ne mettiez pas de petits perchoirs. On voit souvent des nichoirs qui sont vendus avec des perchoirs devant, mais ça, les perchoirs, ça peut être des perchoirs éventuellement pour les prédateurs, donc on ne met pas de perchoirs. J'en ai apporté un, hop là. Voilà, donc ça, c'est à peu près ce qu'on peut avoir comme type de nichoir. Donc, c'est brut. Voilà, ça s'installe entre 2 mètres de haut. À l'intérieur, ça n'a pas été poncé. Et à l'intérieur, on a pris un ciseau à bois à l'intérieur de cette planche-là, entre le sol et le trou d'envol. Et on s'est amusé à lacérer la planche pour offrir, entre guillemets, des prises à l'oiseau pour qu'il puisse atteindre le trou d'envol. Voilà. Donc ça, c'est pour construire le nichoir. Généralement, dans les magasins, vous allez voir des choses qui sont très jolies. C'est très joli. Avec de la peinture. Nous, on va éviter. On va préférer l'huile de lin, qui est naturelle et qui ne va pas dégager de composés de synthèse qui pourraient intoxiquer les oiseaux. Oui.
Pas de vernissage non plus ?
Non, pas de vernissage. Juste de l'huile de lin. Ça va faire office de protection du bois. Donc, s'il y a besoin, on repasse plusieurs couches. Le bois, il va boire l'huile de lin et ainsi, ça va protéger le nichoir contre tout ce qui est champignons et faire glisser l'eau. Donc, en soi, on évite tout ce qui est vernis, tout ce qui est peinture, à moins que ce soit de la peinture naturelle, ça existe aussi, mais pas de composé de synthèse. Oui ?
Le trou me semble un peu petit. Est-ce que les oiseaux arrivent à rentrer dedans ?
Eh bien, c'est une très bonne remarque. En fonction de l'espèce, on ne va pas avoir la même taille de trou. Là, ce que tu as ici, c'est un nichoir type boîte aux lettres à ton oiseau préféré.
Mésange charbonnière.
Alors, ceci, c'est la mésange bleue. C'est la mésange bleue qui est beaucoup, enfin, qui est plus petite que la mésange charbonnière. Je m'explique. Ici, on a un trou de 28 mm de diamètre. Tandis que la mésange, ça sera du 32 de mémoire. J'avoue que j'ai un trou de mémoire, 32. En clair, le trou de la mésange bleue sera plus gros. Tandis que celui de la mésange bleue sera...
C'est l'inverse.
Oui, le trou de la mésange charbonnière sera plus gros et celui de la mésange bleue sera plus petit. C'est-à-dire que notre mésange bleue, quand elle rentre, elle est sûre qu'il n'y a uniquement elle qui peut rentrer à l'intérieur. D'accord, et pas la mésange charbonnière, parce qu'elle, elle sera beaucoup trop grosse pour rentrer. Ainsi, notre mésange bleue sera parfaitement, elle sentira à l'aise à l'intérieur et protégée. Par contre, elle n'ira pas occuper une cavité qui peut être occupée par un autre oiseau qui peut être beaucoup plus gros, parce que forcément, l'autre oiseau, il va la chasser. Voilà, donc en clair, en fonction de l'oiseau qu'on souhaite accueillir à l'intérieur, eh bien, il va y avoir le diamètre du trou de rentrée qui ne sera pas le même. Voilà. Après il y a certains oiseaux qui peuvent, par exemple là j'ai dit du 32, il peut y avoir de la mésange charbonnière mais il peut y avoir aussi du moineau qui va passer par ici. Voilà. Oui.
Est-ce que certains oiseaux, certaines espèces d'oiseaux vivent en cohabitation entre elles ?
Dans le même nid ? Dans le même nichoir ? Non. Non, c'est autant certaines espèces d'oiseaux peuvent vivre dans des nichoirs les uns à côté des autres, je parlais justement de nos moineaux, mais autant ce sera toujours le même couple dans le même nichoir, sinon là ça peut poser souci. Également, j'avais pas parlé de cette chose-là, mais le nichoir ça se nettoie. Quand ça s'installe, ça se nettoie et c'est au moins une fois par an. C'est-à-dire que le nichoir, si vous voulez qu'il soit occupé, c'est minimum avant la fin janvier, il faut qu'il soit installé. Pourquoi ? Parce que ici, on est dans l'ouest de la France, on a un climat qui est très chaud et les mésanges, notamment, c'est pour lesquelles on fait plus souvent les nichoirs. Excusez-moi. Elles vont commencer à rechercher des cavités très tôt dans l'année. Et elles vont donc faire des repérages. Il faut que les cavités soient installées avant qu'elles aient fini leur repérage. Parce que si elles ont fini leur repérage, vous installez votre nichoir, la mésange, elle aura repéré quelque chose de bien mieux à côté. Et donc, votre nichoir ne sera pas installé, ne sera pas prêt. C'est pour ça qu'il y a l'installation. Et je m'égare, j'avais parlé, du nettoyage. Donc, quand on nettoie, c'est vers novembre, par exemple, novembre, décembre. On décroche le nichoir, on passe à l'intérieur avec une brosse. On se protège bien les mains parce qu'il peut y avoir des petites maladies. Donc on se protège bien les mains avec des gants. On passe une brosse avec du vinaigre blanc. Il y en a si vous avez chez vous, mais bon, tout le monde n'a pas ça. Si vous avez un chalumeau, un bon coup de chalumeau, ça désinfecte bien. Et on réinstalle le nichoir autour de l'arbre. ou éventuellement d'une gouttière si c'est un nichoir type boîte aux lettres comme ça qui est totalement fermé pour les mésanges. Ça pose pas de soucis aussi que ce soit installé sur une gouttière.
Super, on aura appris plein de choses ce matin.
Ah, tant mieux.
Formidable, on va pouvoir après nous se lancer à la construction. C'est oui. D'ailleurs ce qui est prévu cet après-midi dans nos activités.
Et donc pour finir mes questions, c'était comment voyez-vous l'avenir des oiseaux et de la nature en général ?
Ouf. Alors c'est une très bonne question. Bon, il y a les rapports du GIEC qui sont pas hyper optimistes. Voilà, j'ai pas envie d'être pessimiste sur l'avenir parce que ce serait trop triste. Je me dis qu'il y a quand même tellement de choses à découvrir. C'est sûr que à l'avenir, il y aura certaines espèces qui vont bouger. On voit déjà qu'il se passe des choses au niveau de la France. Il y a certaines espèces qui viennent du sud qui sont de plus en plus présentes en France. C'est sûr qu'avec le changement climatique, il va y avoir des impacts sur les espèces. Bon, maintenant, est-ce que ces espèces pourront s'adapter ? On voit déjà que certaines s'adaptent. Il y en a d'autres qui vont remonter un peu plus vers le nord. Il y en a d'autres qui ne pourront pas s'adapter et donc qui vont mourir. Bon, ça, c'est sûr que au niveau de l'avenir, il y a assez grandes inconnues. J'espère que derrière, on aura réussi à mener plein d'actions pour les préserver, préserver les espaces où elles peuvent trouver refuge, justement. Voilà. Mais
Et puis ce type d'action que l'on mène ce matin, c'est aussi un acte éducatif hein, de la
oui,
part de notre association La Cléa. Et ce que vous avez appris, vous les jeunes, ce matin, il faut le retransmettre autour de vous et le reproduire aussi à votre petite échelle. Et toutes les petites échelles deviennent une grande échelle. À la fin.
Je ne sais pas si on a un peu de temps pour éventuellement voir ce qu'il faut faire ou pas faire avec un nichoir. J'ai apporté quelques. Il nous reste un petit peu de temps.
Oui, alors après, oui. Est-ce qu'on le fait peut-être après le format radio
oui,
parce que
peut-être.
Ce sera peut-être pas très adapté.
Oui.
On va le faire entre nous.
Voilà.
En tout cas, merci pour les quelques auditeurs qui peut-être auront écouté ce podcast.
Mmh.
On vous donne rendez-vous au prochain. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Merci. Au revoir.